Il y a un mois, ma femme et moi, nous sommes allés dans une église presbytérienne et ils avaient la Sainte Cène ce jour-là et elle nous est passée devant le nez parce que nous ne sommes pas membres de cette église. Et c'est la façon dont ils procèdent. Je leur en veux pas du tout. Il y a bien des années de cela, ce genre de comportement m'aurait outré, mais maintenant, ça ne me gêne absolument pas, surtout que ce sont des gens par ailleurs très aimables. En même temps, j'étais en train de revoir la première épître aux Corinthiens, chapitre 10 et 11, qui justement parle de la scène. En même temps, je me disais, il faut que je pense à un message pour Préfecin. Et j'avais quelques idées dans l'épître aux Romains. Je les ai regardées, puis il n'y avait rien qui m'inspirait. Et puis j'étais toujours dans... J'ai dit, tiens, je vais prendre un Corinthiens 11, mais c'est quand même assez spécialisé, puisqu'il s'agit de la Sainte Cène. Et j'ai dit, c'est peut-être pas une bonne idée. À ce moment-là, mon ordinateur a décidé de ne plus fonctionner. J'ai tout perdu, sauf ce que j'avais déjà préparé. Donc, j'avais plus le temps de faire autre chose. Les dés étaient jetés, le vin était tiré, il n'y avait plus qu'à le boire. Dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, en fait, c'est là où commence le sujet de la scène. On a l'habitude de le lire dans le chapitre 11. Au verset 16 et 17 du chapitre 10, moi j'utilise la version du Semeur. La coupe de reconnaissance, l'apôtre Paul qui dit « pour laquelle nous remercions Dieu », ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous ? Ce dont il a été question aujourd'hui et dont il est toujours question dans les assemblées chrétiennes évangéliques. Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous ? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Nous sommes un seul corps et nous fonctionnons ensemble comme un corps, un sujet dont il est également question dans cette épître. L'apôtre commence donc dans le chapitre 10 à décrire le repas du Seigneur ou la Sainte Cène. Et il prend pour exemple la Pâque juive. Pour la Pâque juive, il y avait une coupe, il y avait quatre coupes qui circulaient. Quatre coupes. Il y en a une qui s'appelle la coupe de reconnaissance, aussi appelée la coupe de bénédiction, et qui est la troisième sur les quatre, qui passe parmi les membres de la famille. Et quand le Sauveur lui-même, entouré de ses disciples, a pris la coupe, il a fait circuler cette coupe parmi ses disciples. C'était également la coupe de reconnaissance. Il voulait que ses disciples considère son sang répandu pour le salut du monde. Au cours de ce repas, l'adoration collective exprime l'unité des membres d'une communauté entre eux. Ce dont il a été grandement question aujourd'hui, ce qui m'a assez surpris, je ne m'y attendais pas, et c'est formidable. L'unité des membres d'une communauté entre eux, ainsi que leur communion au Christ crucifié dont le corps fut brisé et le sang versé. Les deux vont ensemble et sont indissociables. Le fait que Jésus-Christ est mort pour chacun de nous et le fait que tous ensemble, nous qui l'avons accepté, nous formons une unité, un corps, tous ensemble. Au verset 21 de toujours du chapitre 10, Paul dit « Vous ne pouvez boire ». Alors ce verset, j'ai hésité à le mettre parce que Vous savez, on ne sait pas toujours ce que l'apôtre Paul avait à l'esprit quand il écrivait aux Corinthiens. Les Corinthiens comprenaient très bien, mais pour nous, c'est déjà plus difficile. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et en même temps boire à celle des démons. C'est bien dans le texte. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons, verset 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont accepté le Dieu vivant et vrai, en la personne de Jésus-Christ, ne doivent entretenir aucun lien avec le monde démoniaque. Et dans le cas précis des Corinthiens, c'était plutôt l'idolâtrie et la participation au repas dans le temple des idoles, à cause du caractère corrompu des participants et aussi parce que ailleurs, Paul dit que derrière les idoles, il y a un démon. Verset 22. Ou bien voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Dans cet épître, Paul fait beaucoup de reproches aux Corinthiens. À cette époque, donc, les païens pratiquent plusieurs cultes en même temps afin de s'assurer qu'ils n'oublient pas un Dieu en route et qu'ils se vexent. Et certains membres de l'église de Corinthe s'associent à cette pratique plurielle, sans doute par amitié avec certains païens ou pour des affaires. Apparemment, les affaires ne se faisaient pas sur un terrain de golf à cette époque. Mais Dieu, lui, n'apprécie pas qu'on aille manger à plusieurs râteliers à la fois, pour ainsi dire, car il est le Seigneur du ciel et de la terre, et il désire qu'on lui voue un culte exclusif. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit fréquemment qu'il est un Dieu jaloux. C'est important. Il n'accepte pas que ceux qui s'appellent par son nom, que ce soit le peuple d'Israël sous l'Ancien Régime ou nous autres sous le Nouveau Régime, la Nouvelle Alliance, il n'accepte pas que nous allions après d'autres dieux ou des idoles. Dans le livre de l'Exode et du Deutéronome, on lit « Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. » Un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ils ont rendu l'Éternel jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Jésus aussi était exclusif. Il a dit plusieurs fois qu'il fallait choisir. Et il a aussi dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le sujet de la Sainte Cène revient avec plus de détails dans le chapitre 11 de cet épître, puisque c'est ce chapitre qu'on utilise en général. Paul y revient. Il commence dans le chapitre 10, passe à un autre sujet, mais il est tourmenté, l'apôtre Paul. Il est tourmenté. Il revient au sujet de la Sainte Cène. Alors que dans le Nouveau Testament, vous savez très bien, il n'est jamais question de célébrer Noël, le jour anniversaire de Jésus, que nous ignorons d'ailleurs, l'ordre nous est donné par l'apôtre Paul de commémorer la mort du Christ. Et pour de bonnes raisons. Quelques heures avant son arrestation, Jésus célébra la Pâque juive avec ses disciples. Ensuite, et sur les cendres encore chaudes de ce repas, il a construit un monument commémoratif de sa mort qui n'est pas fait de marbre ou de pierres précieuses ou d'argent ou d'or, mais d'aliments très simple. Il institua une cérémonie nouvelle qui en fait rappel, cette cérémonie rappelle la Pâque juive. Parce que la Pâque juive annonçait prophétiquement la venue du Messie et le Messie, Jésus, l'a accompli parfaitement. C'est lui, Jésus-Christ, qui est l'agneau pascal qui était annoncé par la Pâque juive. Au tout début de l'Église, La prise du pain se fait au début d'un repas communautaire et la prise de la coupe se fait à la fin de ce repas communautaire. Ce repas se prenait chaque fois que les chrétiens se rassemblaient dans des maisons particulières. À l'époque où Paul écrit cet épître, ça a changé. Le partage du pain et du vin se font à la fin du repas communautaire. Ce repas communautaire s'appelle une agape. C'est un mot grec très peu utilisé par les Grecs et qui a été pris par les chrétiens et qui en ont fait l'amour pur et désintéressé de Dieu envers les hommes et des hommes entre eux, de ceux qui se proclament le peuple de Dieu. Ce moment solennel de la prise du pain et du vin a été appelé l'Eucharistie, c'est le mot qu'utilisent les catholiques, ce qui veut simplement dire rendre grâce. Mais dans l'église de Corinthe, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, et Paul écrit au verset 17 de la première épître au chapitre 11, puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter, c'est que dans vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, ces réunions vous font devenir pires. Comme un père à l'égard d'un enfant désobéissant, Paul a déjà réprimandé les Corinthiens sur plusieurs points. Dans l'assemblée de Corinthe, une ville terrible, pire que le quartier Montmartre de Paris, il y a, semble-t-il, beaucoup de dévergondés, impudiques et libertins, ce qui est assez surprenant. Mais c'est comme ça. Et ce qui tourmente Paul est que la célébration du repas du Seigneur, qui donc se faisait souvent, au lieu d'édifier les croyants, a l'effet contraire. Au lieu de les rassembler au nom de Jésus-Christ, ça a l'effet inverse. L'Église est divisée alors qu'elle célèbre le repas dont l'un de ses objectifs est d'exprimer la communion fraternelle et l'unité de ses membres en Jésus-Christ. Alors Paul, il est outré. Il est tourmenté. La scène chez les Corinthiens est tombée à un niveau tellement bas que c'est devenu un acte blasphématoire, marqué par des divisions et par des beuveries. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte, verset 18. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous, verset 19. Le mot pour division dans ce passage a donné hérésie en français et serait mieux traduit par secte dans le sens de divergence doctrinale. Comme le mal est présent dans le monde et dans l'homme et dans chacun d'entre nous, Dieu laisse parfois faire afin qu'il apparaisse dans toute sa noirceur, dans toute sa puissance et que les siens, ceux qui appartiennent au Seigneur, s'en détournent et s'en séparent. Les sectes, on n'aime pas les sectes, mais elles ont un avantage, les sectes. Les sectes permettent de distinguer les chrétiens fidèles des autres gens, ou des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Toutes les religions du monde, et je croyais qu'il n'y en avait que 3 000, mais aux dernières nouvelles, il y en a 5 000. Toutes les religions du monde, les sectes, quelles qu'elles soient, les faux prophètes de tous bords, les gourous venus de l'Orient, sont comme des aimants. Ils attirent beaucoup de monde. Ils attirent tous ceux qui n'ont pas d'intérêt pour Jésus-Christ, mais qui veulent quand même une expérience religieuse ou refaire le monde. C'est ainsi que se fait la sélection, le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre l'or, la pierre précieuse et la gangue. Les chrétiens authentiques se révèlent par leur fidélité au Seigneur, quelles que soient leurs circonstances, et il en a toujours été ainsi. De la vaste foule, plusieurs milliers, plusieurs millions de personnes qui sont sorties d'Égypte pour aller en terre promise, il y en a combien qui ont traversé le Jourdain? Il y en a deux qui ont traversé le Jourdain. Caleb et Josué. Ce n'est pas que Moïse n'a pas été fidèle, mais il a commis quelque chose et Dieu ne lui a pas passé. Dans l'église de Corinthe, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de monde qui est de la paille et du bois sec. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut pas vraiment appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Versets 20 et 21. Dans ce passage, en fait, c'est le seul endroit où la Sainte Cène est appelée le repas du Seigneur. Quand les croyants ou ceux qui se disent croyants prennent ce repas ici, il rappelle un acte désintéressé par excellence, la mort endurée par le Christ pour le bénéfice de l'humanité. Mais les Corinthiens, ils ont changé le sens de cette célébration solennelle pour en faire une expérience d'égotisme et de désunion tapageuse. Est-ce vraiment du jamais vu ? Pas du tout. Regardez le peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance. En esprit, du moins, les Hébreux étaient pareils. Dans le désert, ils ne faisaient que se plaindre. Plus tard, les Israélites dans leur pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après les rois David et Salomon, les 12 tribus, en réalité 13, se sont scindées en deux royaumes. Ils se sont disputés âprement, en sont venus aux mains, plus exactement aux armes, et ils se sont entripés des guerres civiles fratricides et meurtrières. Ça, c'est le peuple de Dieu. Dans les agapes des Corinthiens, les repas fraternels au cours desquels on célébrait la scène, il était d'usage que chacun apporte des provisions, ce qu'on appelle tirer des sacs, et tout était mis en commun. Mais dans l'église de Corinthe, ça ne se passait pas comme ça. Les quelques membres qui étaient riches, parce qu'il y en avait, ils restaient ensemble et ils mangeaient ce qu'ils avaient apporté sans tenir compte des autres. Les plus riches s'empiffrent et se saoulent, tandis que les plus pauvres, les esclaves, n'oubliez pas que dans l'Empire romain, la moitié de la population est esclave. Les esclaves manquent de tout. Le repas du Seigneur, qui aurait dû être une célébration communautaire, est devenu une pratique privée et discriminatoire. Depuis toujours, on sait très bien que l'argent établit un clivage entre les gens, et c'est bien dommage, mais dans l'Église, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire, ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu, et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Verset 22. Les Corinthiens qui désirent des réceptions privées, eh bien qu'ils le fassent, ils ont toute la liberté de les organiser chez eux, mais les réunions d'église ne sont pas un endroit pour la manifestation d'un esprit sectaire, d'autant plus, et je me répète, que le repas du Seigneur a justement pour but de commémorer un acte gratuit, désintéressé. Négliger égoïstement et même mépriser un frère dans le besoin est odieux et c'est une entorse grave aux enseignements du Christ. C'est rejeter la solidarité qui doit se manifester dans l'Église et c'est blesser cruellement les démunis. Maintenant, j'en viens à ce que nous utilisons d'habitude dans nos églises pour la scène, mais je vous ai donné tout l'arrière-plan. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, pris du pain, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, prière juive, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Versets 23 et 24. C'est ici, dans 1 Corinthiens 11, le premier récit de la scène que nous possédons, puisque les évangiles ne sont pas encore rédigés. C'est aussi le seul endroit où, en dehors des paroles indirectes de Jésus, nous est donné l'ordre express par l'apôtre Paul de rappeler le repas du Seigneur. Il parle ici ce qui a été reçu et transmis. En général, ces termes dans les Écritures décrivent l'enseignement oral apostolique inspiré par le Saint-Esprit. Paul rappelle aux Corinthiens ce qu'ils sont censés savoir, mais qu'ils nient par leurs actes. Ce que Paul a reçu est donc investi de l'autorité du Seigneur et il l'a probablement reçu dans une vision ou dans un rêve. Le rappel qu'il fait ici dans ce texte des simples paroles de Jésus, que Jésus a prononcées avant, juste la veille d'aller à la croix, est beaucoup plus lourd et impressionnant que tous les arguments qu'il aurait pu sortir et tous les reproches qu'il aurait pu faire. Ce récit a dû culpabiliser les Corinthiens en leur montrant combien leur manière de célébrer le repas du Seigneur le dénature. Ils avaient bien besoin de chanter ce que nous avons chanté, « Pardon Seigneur, pardon !» Et ils l'ont peut-être fait. Le fait même de rompre ce pain, certaines églises, on vous le distribue rompu, dans d'autres, vous prenez un bout du pain et vous le rompez vous-même. Le fait même de rompre ce pain implique qu'il doit être distribué et que tous doivent y participer. Ce souvenir de cette nuit poignante des souffrances de Jésus, Paul le contraste avec la légèreté et la manière frivole et profane dont la scène est célébrée à Corinthe. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Verset 25. Le vin est un poignant rappel du sang du Christ. Nous savons fort bien que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon pour les péchés. Et c'est par ce sang versé qu'a été établie la nouvelle alliance avec Dieu, cette alliance qui était annoncée par le prophète Jérémie dans le chapitre 31. Cette alliance, la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes présentement, est une disposition solennelle. C'est un engagement de l'un des partis, en l'occurrence Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, pour le bénéfice d'un autre parti, vous et moi, qui pouvons l'accepter, nous pouvons accepter ou refuser les termes de cette alliance. Depuis la mort du Christ en croix, Dieu offre la vie éternelle à quiconque accepte les termes de cette alliance, établie en la personne de Jésus, parce qu'il a versé son sang sur la croix. Le centre de l'ancienne alliance, c'était la loi de Moïse, la parole écrite. Le centre de la nouvelle alliance, c'est la personne de Jésus-Christ, la parole vivante. Dieu, voyez-vous, ne nous fait pas entrer au paradis par la petite porte de derrière, le soir à la tombée de la nuit. Il nous ouvre tout grand, le grand portail principal, Il nous traite comme ses fils et ses filles parce que le châtiment de nos fautes a été totalement payé quand les exigences du Dieu trois fois saint ont été satisfaites à la croix et pas ailleurs. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Verset 26. La Sainte Cène est donc avant tout un moment de confession de foi des croyants. Il y a toujours un moment de recueillement où on peut se demander, est-ce que vraiment j'ai mis toute ma foi en Jésus-Christ, rien qu'en lui et en rien d'autre? On proclame sa mort. Je proclame sa mort pour le salut de mon âme. Le sacrifice de Jésus est ainsi toujours célébré dans l'attente expectative de son retour. Toutes les fois que cette petite cérémonie a lieu, on proclame le message de l'humiliation du Christ et de la gloire dont elle sera, c'est un futur, suivi. Nous savons par d'autres textes que Jésus est ressuscité, qu'il est monté aux cieux, qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Vous savez que tout cela est passé sous silence dans ce passage ? Assez curieusement, c'est passé sous silence. Le point focal, c'est la mort de Jésus-Christ. Et cette mort et cette foi en lui qui nous rassemble en un seul corps. La Sainte Cène se tourne dans trois directions. Dans le passé, il y a 2000 ans environ, puisqu'il a dit « Faites ceci en souvenir de moi ». Dans le présent, c'est un repas de communion des croyants ensemble qui commémore la mort du Christ. C'est un regard vers le futur, puisque c'est une pratique temporaire qui cessera mais qu'on doit observer jusqu'à ce qu'il revienne. Telles sont les réalités exprimées par les chrétiens qui prennent ensemble le repas du Seigneur. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous avez peut-être sans doute l'habitude d'entendre ces paroles, et parce qu'on les entend si souvent, oui, bon, d'accord, nian, nian, nian. Alors là, aujourd'hui, on s'y arrête et je vous donne tout le contexte et puis on va aller dans certaines explications qui ont un rapport avec le fait qu'il y a un mois, la scène nous est passée sous le nez. Bon, mais je dis ça en rigolant parce que j'ai aucune animosité, il n'y a aucune animosité de ma part. La conduite ignoble des Corinthiens n'est pas sans conséquence, car il est indigne et irrévérencieux de prendre ce repas sans tenir compte de ce qu'il représente. Et c'était le péché de certains Corinthiens qui transforment ce repas secret, sacré en une beuverie et d'autre part qui méprisent les démunis. Par ses agissements, il bafoue l'œuvre de la croix comme étant un péché terrible contre le Seigneur, car plus l'objet d'une offense est élevé et saint, et plus le crime est grave. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Dans l'église que nous fréquentons, chaque fois que la scène, il y a la Sainte Cène, c'est une fois par mois, le pasteur menace. Il nous menace. Et ça me met toujours mal à l'aise. Puis on se dit, bon ben, puisque la prise de ce repas est tellement menaçante, pourquoi le prendre? Bon, c'est logique. Hein, si... je ne vais pas aller camper dans un champ si je sais qu'il y a un ours qui va venir me rendre visite. Je ne sais pas si vous êtes comme vous, comme moi, mais bon. C'est pour ça que je suis... On va y venir. Il dit, Paul, aux Corinthiens, que chacun d'eux donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain, qu'il le fasse. Donc, c'est un examen de conscience avant de prendre le repas du Seigneur. Il veut que les Corinthiens revoient leur attitude à l'égard de Jésus-Christ. C'est une chose que nous faisons. Nous nous recueillons. Calvin a écrit, « Si, aspirant du fond du cœur à la justice qui vient de Dieu, humilié par le sentiment de ta misère, tu te confies et t'abandonnes tout entier à la grâce de Christ, tu es un convive dignement préparé pour t'approcher de cette table. » J'aime bien ces paroles. Deuxièmement, qu'est-ce que les Corinthiens devaient faire? Je dois reconsidérer mon attitude envers les autres, ce qui inclut aller voir un frère que j'ai offensé par ma conduite, lui demander pardon et aussi réparer les torts que j'ai pu lui faire. Dans le cas des Corinthiens, plus particulièrement, les pauvres ont besoin d'une aide concrète parce que les belles paroles, ça remplit pas le ventre. Donc voici vraiment dans le contexte les deux aspects sur lesquels on doit se recueillir. Est-ce que je reconnais vraiment en Jésus-Christ mon Sauveur et qu'il a versé son sang pour moi et qu'il est mort sur la croix pour moi? Bon, là-dessus, quand on fréquente une église évangélique, en général, la question ne se pose pas. Et le deuxième point, et c'est là où, personnellement, je ne partage pas les menaces que dans mon église, j'entends chaque fois qu'il y a la scène. Le deuxième point, selon le contexte, c'est mon attitude vis-à-vis des frères. Et j'ai bien aimé, aujourd'hui, il semblait être le thème que nous sommes ensemble et que nous formons un corps et que nous ne devons pas nous disputer comme des chiffonniers. À mon avis, d'après le contexte, voilà les deux points sur lesquels nous devons nous interroger quand nous prenons le repas du Seigneur. Notre attitude vis-à-vis de Jésus-Christ et notre attitude vis-à-vis des frères et sœurs. Et s'il y a réparation à faire, ben c'est le moment de la faire. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps du Seigneur se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Le pain et le vin représentent l'enveloppe charnelle que Jésus a endossée et qui fut détruite sur la croix. Ce sont probablement les mêmes Corinthiens effrontés qui, d'une part, ne tiennent pas compte de la signification du repas du Seigneur et qui, d'autre part, ont une attitude dédaigneuse envers les petits, les esclaves qui font partie de cette église. Les repas communautaires et la participation à la Sainte Cène, qui est un moment fort de confession de foi en Jésus-Christ, aurait dû être caractérisé par une solidarité fraternelle. On revient toujours sur ces deux points, c'est-à-dire ma relation avec Jésus-Christ et ma relation avec les autres. Au lieu de cela, comme je l'ai déjà dit, certains festoient, boivent un peu trop, ils sont en état d'ébriété au moment de prendre la scène, qui, je le rappelle, se prenait à la fin. Ce comportement vulgaire et outrageux est une injure et un crime contre Jésus-Christ et contre les frères et sœurs. Cela dit, il y a quand même un point doctrinal important dans ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire que de discerner le corps du Seigneur? Depuis le premier siècle, l'Église a eu des difficultés à comprendre ce que ce pain et ce vin représentent. Vous le savez très bien. Moi, je suis d'un arrière-plan catholique. Pour les catholiques, lors de la communion, ils croient en quelque chose qui s'appelle la transsubstantiation, où les éléments se transforment en corps et sang du Christ. Les luthériens parlent de consubstantiation, où les éléments deviennent le corps et le sang du Christ, mais de façon mystique. Calvin et les presbytériens voient dans les éléments un moyen de grâce. Un moyen de grâce. Moi, ça me prend mal, un moyen de grâce, personnellement, mais c'est parce que je suis d'origine catholique, j'aime pas ça du tout. Pour moi, c'est par la foi. C'est pas avec quelque chose, c'est pas avec un rite. Bon. C'est le réformateur Zwingli qui a écrit, démontré que le pain et le vin sont des symboles. Et on voit dans l'un des évangiles une histoire, l'histoire des deux disciples qui, après avoir été témoins de la crucifixion, retournent tristement chez eux. C'est alors que Jésus ressuscité se joint à eux sans qu'ils le reconnaissent, et au bout d'un moment, il donne l'impression qu'il veut les quitter, ils insistent. Ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse, le soir approche !» Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. C'est assez curieux, hein, ça. Jésus qui s'en va comme ça. « Eh, mais non, mais tu restes, reste avec... » Il a fallu qu'ils insistent. Intéressant. Il se mit à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il avait disparu. C'est au moment où Jésus a pris la Sainte Cène avec ses deux disciples qu'il s'est révélé à eux. De la même manière, quand nous nous réunissons et que nous prenons la scène, quand nous célébrons le repas du Seigneur, nous bénéficions pareillement de la présence invisible mais bien réelle du Seigneur, de la même manière que quand il a dit « Là où deux ou trois sont ensemble, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus n'est pas plus présent au moment de la scène que lorsque vous vous rassemblez comme aujourd'hui. Jésus est présent avec nous, toujours. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. C'est peut-être de ce passage que viennent les menaces qui sont parfois données. J'aime bien ce passage parce qu'en substance, il dit que si je me juge moi-même, c'est-à-dire, et il n'y a pas besoin d'attendre le moment de la scène pour ça, hein, si j'accepte de me regarder en face pour ce que je suis par rapport à ce que je devrais être, alors il n'est pas nécessaire pour Dieu de me juger, ça n'a pas de sens. Mes péchés ont déjà été réglés sur la croix, je reconnais mes fautes, il n'y a pas, et Dieu n'a rien à faire. Donc, il n'est pas nécessaire pour Dieu de me juger, de me discipliner, de me corriger comme un enfant du Père, ce qui est à distinguer de la condamnation du monde. Mais si je fais ce qui est répréhensible aux yeux de Dieu, soit je le reconnais devant lui, soit il m'en demandera des comptes. Et c'est ce qui arrive aux Corinthiens qui persistent dans le mal faire. Bon, je finis le chapitre 11. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a très faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu, etc. Paul a rappelé donc que le vrai sens des agapes, les repas de communion fraternelle et surtout de la Sainte Cène, c'est pour l'édification commune de tous les croyants, petits et grands, et que nous devons prendre ce repas de charité ensemble et non en petite coterie ou chacun pour soi. En respectant les règles que l'apôtre énonce, les Corinthiens éviteront le jugement. Honneur à Dieu et respect des autres sont les deux clés de voûte du christianisme, puisque selon Jésus, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux plus grands commandements de la loi. Et ça se trouve dans Matthieu 22, mais je ne les lirai pas. Merci de votre attention.
Merci à Jacques pour ce qu'il nous a partagé. Merci aussi au groupe de louanges pour ce temps que nous avons pu vivre ensemble. Alors, je ne sais pas vous, moi j'aurais bien pris la scène ce matin. Rendez-vous dimanche prochain. Le programme de la semaine. Lundi, demain, à 14h, Femme Club, chez Rebecca. À 19h30, le conseil. Merci de penser au conseil, de prier aussi pour nous. À 20h30 aussi, la cellule de Prefsin qui va se réunir chez Emmanuel et Rebecca. Mardi, c'est la soirée normalement des rencontres de semaine. Donc mardi, il y aura les cellules. Ajex, donc chez Didier et Loredane, à 20h30. Et puis pour la cellule de Prefsin, non, de Collonges, chez Philippe et Christiane. Mercredi soir, la chorale, à 20h30. Samedi, le groupe de jeunes. Dimanche, culte avec scène. Et puis, un petit peu en avance sur la semaine d'après, mardi dans 10 jours, l'étude biblique des aînés, à 14h30. Les nouvelles des uns et des autres. Oui.
Juste samedi aussi, à 14h, le groupe
d'ados. Samedi, groupe d'ados, à 14h. Ok, merci. Les nouvelles de Annelise, tout d'abord. Alors, Annelise est toujours à l'hôpital, toujours aveugle de son œil gauche, donc elle ne voit que par l'œil droit. Elle est malgré tout confiante, elle est dans la paix, elle remercie chacun pour le soutien. C'est vrai, c'est important de continuer de penser à elle dans la prière. Mercredi ou jeudi, elle aura un IRM qui va peut-être donner plus d'informations par rapport à son œil. Elle va probablement sortir peu après, donc vers la fin de la semaine, elle rentrerait chez elle, encore à vérifier. Ceux qui veulent la contacter, c'est possible, elle a un téléphone, il est sur le site, vous pouvez me le demander, je peux vous le donner aussi après le culte. Madeleine devait sortir de l'hôpital cette semaine, ça a été reporté. Elle est donc toujours à Argonnet. Elle devrait sortir en début de semaine pour aller au château Bonatré à Villa, près d'Annecy. Là aussi, elle a un numéro de téléphone. Ceux qui veulent la joindre, c'est bien de l'encourager, de la fortifier aussi. Ils peuvent me le demander, il est aussi sur le site. Continuons aussi de prier à elle, continuons aussi de penser à Pierrot, qui se retrouve aussi seul à la maison. C'est vrai, on veut penser à toi, Pierrot. Que Dieu te... Oui ?
Elle est sortie de l'hôpital.
Ah, elle est sortie, finalement.
Elle est sortie de l'hôpital.
D'accord.
Ok.
D'accord. Alors, dès qu'il y aura peut-être un numéro de téléphone ou un moyen de la joindre, tu peux nous le faire savoir. Oui. Donc c'est celui qui est sur le seul site en fait, ok, donc j'ai une fausse information avant le culte alors, désolé. Moi je n'ai pas d'autres annonces, je ne sais pas si quelqu'un aurait eu une annonce ou bien pas. Sinon je vous invite à vous lever, et pour clore ce culte je vous lis encore deux versets, dans les derniers versets d'Éphésiens. Que la paix et l'amour avec la foi vous soit donnée de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Amen. Passez une bonne semaine et un bon dimanche dans la présence de notre Dieu.